le cadre de notre séminaire dont le thème est l'Église en danger, esprit de Bélial. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Dieu est bon. Il est présent parmi nous. Il nous attend. Il veut nous donner quelque chose. C'est à nous, mes amis, de faire preuve d'une foi ferme. La Bible nous demande de croire lorsque nous nous approchons de lui. La Bible nous demande de faire preuve, de faire montre de foi lorsqu'il est question de Dieu, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et un des objectifs de cet enseignement, c'est de permettre à chacun de nous de recevoir la vérité de sa parole, afin que cette vérité puisse nourrir notre foi. La parole de Dieu reste, mes amis, la seule nourriture de notre foi, le seul ingrédient qui puisse contribuer à sa croissance. Amen. Gloire au Seigneur. Une fois de plus, bienvenue. Nous voulons vous saluer, eh bien, au nom du Seigneur, et vous dire que nous sommes très, très heureux de vous avoir avec nous à l'occasion de cette deuxième soirée de notre séminaire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons saluer nos amis qui sont assis un peu partout, tout autour, donc, de l'Église. Que le Seigneur puisse le bénir. Si vous nous entendez, eh bien, nous vous aimons et nous vous envoyons nos salutations les plus fraternelles. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons, sans plus tarder, incliner nos têtes dans la prière, nous préparer donc à l'enseignement de sa parole. Nous voulons continuer avec cette même parole, car c'est par et au travers de cette parole que nous pouvons, mes amis, recevoir toutes les informations indispensables dont nous avons besoin concernant cet esprit de séduction qui, hélas, exerce de plus en plus son influence mortifère, son influence horrible, immorale sur l'Église, l'empêchant ainsi de pouvoir avancer, d'aller de gloire en gloire. Et puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, nous avons alors besoin que le Seigneur nous touche dans notre esprit, que le Seigneur puisse raviver notre intelligence, nous rendant ainsi capables de saisir sa parole. Que chacun parle simplement au Seigneur, qu'il lui adresse cette prière. Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole, car c'est la seule qui puisse me nourrir véritablement. C'est la seule qui puisse me transformer à ton image, me transfigurer, Seigneur, et me faire ressembler davantage à toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons te remercier pour ta présence au milieu de nous. Nous savons, Seigneur, que ta présence vaut plus que tout au monde. Il n'y a rien dans tout cet univers qui puisse être comparé à ta présence. Nous bénissons ton nom, Seigneur, de ce que dans ton amour pour nous, tu acceptes d'être présent parmi nous. Tu acceptes, Seigneur, que nous puissions nous rassembler en toute liberté autour de toi, Seigneur, pour parler de choses en rapport avec ton règne parmi nous, Seigneur, et en nous. Nous bénissons ton nom pour l'enseignement d'hier, et nous voulons ce soir que tu nous parles aussi, Seigneur, que ce soir tu nous donnes la révélation de ta parole. Oins ton serviteur, assiste-le par ton esprit, oins chacun de nous, Seigneur, et donne-nous de rester sensibles à l'action de ton esprit au travers de ta parole. Que cette parole puisse trouver des cœurs et des esprits bien disposés. Seigneur, des cœurs et des esprits prêts non seulement à la recevoir, mais aussi à la mettre en pratique. Que par cette parole, nous puissions, Seigneur, acquérir le discernement indispensable, discernement dont nous avons besoin pour pouvoir détecter la manière sournoise et subtile d'agir de cet esprit, Seigneur, surtout dans ces temps de la fin, dans ces derniers jours, ô Dieu, où ta parole nous met en garde contre l'activité de plus en plus intense de toutes sortes d'esprits impurs, de toutes sortes de démons qui essayent par tous les moyens, par des faux enseignements, Seigneur, par des faux prophètes, par des faux apôtres, par des faux pasteurs, qui essayent par tous ces moyens, Seigneur, de déstabiliser ton Église, de l'égarer, mais gloire et grâce te soient rendues de ce que toi qui bâtis ton Église, tu veilles sur elle. Tu ne dors ni ne sommeilles. Tu fais tout pour que ton Église se réveille de son sommeil et de sa torpeur et qu'elle se tienne debout devant toi et s'accroche à toi. Car c'est seulement en s'accrochant à toi, c'est seulement en marchant selon ta parole, c'est seulement en étant attaché à toi, c'est seulement lorsque ton Église apprend à se saisir de toi, qu'alors toutes les promesses que tu lui as faites deviendront oui et amen. C'est alors que ton Église sera une Église triomphante, une Église glorieuse, une Église sans rides, ni rien de semblable, une Église qui te reflète, une Église qui rayonne de ta lumière, une Église qui pèse de ton poids et de ta gloire, une Église qui est riche, non pas en monnaie des hommes, non pas selon les standards des hommes, mais qui est riche de par ta présence en son sein. Alors parle-nous, fais-nous du bien, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. L'esprit de Bélial. Un véritable danger pour l'Église de Jésus-Christ, un esprit sournois, subtil, qui essaye par tous les moyens de créer des conditions autour de nous pour nous empêcher, mes amis, d'avancer dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous l'avons vu hier, en introduction, comment toutes sortes de forces d'obédience satanique, toutes sortes d'esprits impurs, eh bien, se sont coalisés et se coalisent davantage pour essayer, mes amis, d'attaquer l'Église de Jésus-Christ. Car s'il y a une entreprise que le diable est de toutes ses tripes, c'est bien là l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. C'est la seule œuvre vivante que Dieu est en train de poursuivre sur cette terre. Il a démarré cette locomotive que l'Église, et rien, absolument rien, ne pourra arrêter sa locomotive. Alléluia. Elle poursuit sa route. Mais alors qu'elle poursuit sa route, l'ennemi va tout faire pour essayer de créer des conditions autour de l'Église et dans l'Église qui empêchent l'action de Dieu d'être effective. C'est là que l'Église est appelée à développer le discernement des esprits. C'est là que l'Église est appelée, mes amis, à se oindre ou à oindre ses yeux du collyre qui vient de la parole et du Saint-Esprit. L'esprit de Bélial, un véritable danger pour l'Église. Nous l'avons vu hier, mes amis, comment cette Église et tant d'autres, plutôt, comment cet esprit et tant d'autres essayent de créer un climat, une atmosphère malsaine, de créer des conditions dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, conditions qui empêcheraient Dieu d'agir. Car pour que Dieu, mes amis, puisse agir parmi nous, pour que Dieu marche parmi nous, comme il marche au milieu de 7 chandeliers d'or dans le lieu céleste, eh bien, il faut que certaines conditions soient remplies. Alléluia. Des conditions morales et des conditions spirituelles. Et puisqu'il en est ainsi, eh bien, l'ennemi va tout faire pour essayer de nous distraire, pour essayer de nous séduire, pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Il va tout faire pour que nous puissions nous détacher de la parole de Dieu. Et en nous détachant de la parole de Dieu, nous nous détachons, eh bien, du Christ lui-même. Alléluia. Car nous ne sommes que des sarments. Et les sarments n'ont d'autre raison d'être que de rester attachés au cep. Et pour rester attachés au cep, mes amis, il faut rester attaché à la parole. C'est pourquoi ne soyez pas de ceux qui ont démissionné par rapport à leur éternité, qui ont confié leur destin entre les mains des prophètes, les mains des bishops, les mains des apôtres, les mains je ne sais de quels serviteurs. C'est votre responsabilité de veiller, mes amis, à ce que votre âme continue à être nourrie par la parole qui est la véritable sève de l'esprit. Alléluia. Bélial. Hier, nous avons vu sa première manifestation. Dieu a jeté son dévolu sur un homme, Saül. Nous sommes là au début de l'instauration de la monarchie en Israël. Dieu a choisi Saül. Il a demandé à son prophète Samuel d'aller lui donner l'onction royale. De par cette onction, Dieu mettait cet homme à part. D'abord pour lui, et puis ensuite pour son peuple. Alléluia. Par cette onction, Dieu rendait Saül capable de pouvoir diriger son peuple, de tout faire pour que le peuple reste attaché à Dieu, pour que le peuple continue à marcher selon la loi de Moïse, selon les termes de l'alliance que Dieu avait donc conclue avec son peuple dans le désert, après qu'il l'ait délivré du joug et de la servitude des Égyptiens. Saül reçoit l'onction. Saül est visité par le Saint-Esprit, nous l'avons vu. Saül est transformé, alléluia. Le Seigneur change son cœur. Il devient un nouvel homme. Désormais, eh bien, il a de nouvelles affections. Il a de nouveaux objectifs. Désormais, sa vie, mes amis, toute son existence, eh bien, prend une autre trajectoire. Si à l'époque, il avait peut-être des ambitions de devenir berger comme son père, rappelez-vous que c'est au cours d'une circonstance tout à fait spéciale que le Seigneur va se révéler à cet homme, oui ou non. Eh bien, les années de son père s'étaient perdues. Peut-être qu'il avait cette ambition. Peut-être qu'il pensait devenir un ingénieur agronome, un grand éleveur, etc. Mais Dieu en décida autrement. N'est-ce pas? Donc, Dieu s'est révélé à lui. Il en a fait son serviteur. Et la Bible nous dit qu'après qu'il ait reçu l'onction, après qu'il ait reçu l'approbation, le sceau de Dieu sur sa vie, pour devenir désormais le roi, ou du moins le conducteur, le chef de son peuple d'Israël, la Bible nous dit que tout le peuple fut dans la liesse, tout le peuple fut dans la joie, et se mit à chanter, à crier, à acclamer le nouveau roi, en disant « Vive le roi !» C'était une joie normale. Alléluia. Dieu venait d'agir. Il était donc important que le peuple puisse, en réaction à l'action de Dieu, eh bien, se réjouir, acclamer le nouveau roi et dire « Enfin, nous avons quelqu'un qui va nous conduire. » Et la Bible nous dit qu'il avait été oint ailleurs. Et comme il habitait Gibéa, c'était une ville qui se trouvait dans le territoire de Benjaminites, c'est-à-dire les descendants de la tribu de Benjamin, eh bien, pour quitter le lieu de l'onction et aller à Gibéa, la Bible nous dit qu'il partit, non pas seul. Premièrement, Dieu toucha certaines personnes pour l'accompagner, pour l'amener quelque part dans ce cortège royal. Alléluia. Dieu toucha des cœurs. Mes amis, lorsque Dieu appelle quelqu'un pour le servir, eh bien, il suscite aussi autour de lui des gens qui vont l'aider. Car l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire par un seul individu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, « Pasteur, hier, il y a eu beaucoup de monde, etc. » Ma réaction a été, « Ce sont vos prières qui ont attiré, qui attirent encore tous ces gens. » Alléluia. Donc, l'homme à lui seul ne peut rien faire. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas donné un seul ministère. Il n'a pas suscité une seule vocation pour pouvoir permettre aux hommes de bâtir son œuvre, mais il en a suscité plusieurs. Alléluia. Il y a eu donc des vaillants hommes, des gens qui étaient déterminés à accompagner Saul par leurs conseils. Alléluia. À l'aider à assumer la fonction qui était la sienne désormais, à savoir présider aux destinées du peuple d'Israël. Mais la Bible ajoute, hélas, que non seulement des vaillants hommes se mirent debout pour marcher avec Saül, il y eut aussi des hommes sans morale, des vauriens, en d'autres mots, des fils de Bélial, qui se levèrent aussi pour faire partie du cortège et accompagner Saul jusqu'à Gibéa, et même rester. Nous verrons comment cet esprit est très contagieux et contaminé pratiquement toute la tribu de Benjaminite. Voyez-vous? Et ces fils de Bélial, quelle attitude vont-ils avoir vis-à-vis de l'homme que Dieu a oint pour qu'il devienne roi? Eh bien, nous l'avons vu. Ces gens-là, l'ont méprisé. Qui est-il? Est-il vraiment celui qui est appelé à nous sauver lorsque l'ennemi viendra? A-t-il la capacité? Lui qui appartient à l'une des plus petites tribus d'Israël. Entre nous, tu trouves vraiment que c'est l'appel de Dieu? Fils de Bélial. L'onction ou l'anti-onction de Bélial. Et la leçon que nous avons tirée, c'est que lorsque Dieu appelle quelqu'un, et ceci est valable pour n'importe quel type de vocation, même pour le mariage, si nous considérons le mariage, et ce, à la lumière, au regard de la Bible, comme étant une vocation, eh bien, lorsque quelqu'un se lève pour pouvoir se marier, il doit savoir avec qui il va aller. Alléluia. Car le mariage est une alliance dans laquelle on entre à deux, non pas à trois, non pas à quatre, oui ou non? Eh bien, puisqu'il en est ainsi, puisque c'est une alliance sacrée, il est donc important de savoir avec qui aller dans cette alliance. Autrement, vous risquez de vous retrouver avec un fils de Bélial, avec une fille de Bélial. Et quand vous vous retrouvez avec une fille de Bélial, eh bien, Satan devient votre beau-père. Et croyez-moi, avoir le diable comme beau-père. Eh bien, c'est marcher comme sur une corde. Il est toujours là, hein, avec des aiguillons, prêt à vous détruire. Voyez-vous? Donc, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour l'appel, lorsque le Seigneur nous appelle comme Saül, nous devons savoir qui vient avec nous. Alléluia. Et le problème aujourd'hui pour beaucoup d'hommes de Dieu, pour beaucoup de pasteurs, pour beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est de vouloir chercher des alliances n'importe où, au point même de se compromettre. Alors que la Bible nous met en garde contre toute tentative de pouvoir labourer dans le champ du Seigneur et avec le bœuf et avec l'âne ensemble. La Bible interdisait cela. Voyez-vous? Donc, comment former un attelage disparate avec des gens qui ne sont pas dans la vision de Dieu? Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'il y a des ministères qui ont été détruits. Non pas parce que le pasteur, à un moment, il a choisi ou il a manqué. Non, tout simplement parce qu'il n'a pas veillé avec qui marcher. Alléluia! Avec qui aller? On organise une conférence. Et dans cette conférence, avec qui marcher? Or, aujourd'hui, je sais, l'exotisme a toujours attiré. Voyez-vous? Lorsqu'on veut organiser une grande conférence, on va chercher des gens qui viennent d'autres pays. Parce qu'on pense que sur une affiche, quand vous avez des noms de Olasotungu, quand vous avez des noms qui ne sont pas des noms d'origine congolaise, alors ça attire. Mais quand vous mettez le nom de Chibwabwadia, mais lui, il est du Kasaï. Lorsqu'on voit un nom, oh, Kyungu, oh, ça c'est un Katangé. Oui. Quand on voit Bahati, oh, mais non, ça c'est le Maniema. Voyez, mes amis, mais quand on voit un nom un peu à consonance bizarroïde, Olibasanjo Sukeka, là les gens attirent. Et pour attirer davantage, on lui accole un titre. Souverain sacrificateur. Oui. Donc nous devons faire très attention. Qui part avec nous? Voyez-vous? Voyez? Donc non seulement pour le ministère, non seulement pour n'importe quel travail, même dans les affaires, vous qui êtes femme ou homme d'affaires et qui en même temps appartiennent au Seigneur, vous devriez savoir avec qui vous associez. Vous risquez de vous retrouver avec des fils et des filles de Bélial. Voyez. Même si dans un premier temps, ils vous flattent. Mais ils vous attendent au tournant. Parce que eux, c'est la magouille. Eux, c'est le vol. Eux, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et vous allez vous retrouver embarqué dans un chariot comme ça. Mais un chariot va vous amener où? Il est, le chariot ici chez nous est traîné par qui? Par un homme. Hein? Et souvent, le même chariot sert aux immondices. Après, ça va servir à aller chercher des casiers de bière quelque part. Et si vous retrouvez à remorquer dans ce chariot, vous allez où? Vous n'irez pas loin. Donc, voyez-vous, nous devons faire très attention. Qui est appelé à aller avec? C'est là que le discernement devient plus qu'indispensable. C'est aussi là que les Romains s'empoignèrent. Donc, voilà la première manifestation. C'est dans l'entourage de celui ou de celle que Dieu a mis à part. Peu importe la raison. Pour Saül, c'était le comment? C'était la monarchie. Il devait devenir monarque. Voyez, mais peu importe. En Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous avons été mis à part. Pour qui? Pour Dieu. N'est-ce pas? Eh bien, de par cette mise à part, nous avons l'onction du Saint-Esprit. Nous appartenons au royaume des cieux. Et par conséquent, eh bien, de par notre position, de par notre statut, notre dignité, eh bien, nous déclarons déjà la guerre à l'esprit de Bélial, qui va essayer par tous les moyens, que ce soit dans notre entourage professionnel, que ce soit dans le milieu d'affaires dans lequel nous évoluons, que ce soit au niveau du mariage, avant de nous engager, il peut nous aveugler, il nous amène quelqu'un, il nous fait croire que c'est un frère parce qu'il chante déjà nos cantiques merveilleux, parce qu'il fait sortir de sa bouche « Alléluia ». Pour certaines filles, cela est suffisant. Pas du tout. Ça peut être un acolyte. Ça peut être un acolyte de Bélial. Juste pour te distraire. Combien ont été engagés dans le mariage et plus tard l'ont regretté? Oh, si j'avais su. Et pourtant, on m'avait dit par prophétie, c'est elle. Attention. Dieu ne choisit pas des femmes ou des hommes pour les uns et les autres par prophétie. La prophétie est là. La prophétie est là pour confirmer. Voilà. Mais ce n'est pas dit. Non. Vous devez rejeter cela. Jeune gens, jeune fille. Méfiez-vous. Eh bien, je ne sais pas, mais j'ai remarqué que tous les jeunes se mettent à ma droite. Alors, vous comprenez pourquoi c'est de ma droite que ça crie fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout ça, Bélial dans l'entourage de ceux qui ont été appelés. Peu importe le type d'appel, peu importe le type de vocation. Mais seulement, quand le Seigneur pose sa main, soyez-en sûrs, vous n'avez pas besoin d'un appât particulier pour attirer l'esprit de Bélial, c'est dans sa nature. Aussitôt que Dieu se lève pour commencer un travail par quelqu'un, eh bien lui aussi se lève et va essayer de trouver dans l'entourage de la personne, eh bien de gens qu'il va influencer et qu'il va pousser à devenir des éléments de distraction pour celui ou celle que Dieu appelait, qui vont essayer de le déstabiliser par des paroles négatives. Voyez-vous, oh mais lui non, moi je ne crois pas en lui. Ah non, je ne pense même pas que c'est Dieu qui l'a appelé. Mais c'était pareil avec Saül. Qui est-il? Ils l'ont méprisé. Ils l'ont découragé. Ils ont eu une attitude, mes amis, derrière lesquelles il y avait des préjugés, des idées préconçues que c'est un Benjamin, c'est quelqu'un de Benjamin, et par conséquent, il n'était pas digne de régner. Et en ayant de telles attitudes, eh bien, ils s'attaquaient à Dieu lui-même. Parce que, par leur attitude, par leurs propos, ils disaient à Dieu, non, tu t'es trompé dans le choix. Tu aurais pu nous consulter. Nous t'aurions proposé quelqu'un qui vient de la tribu de Judas. Quelqu'un qui vient de toutes ces grandes tribus, comme la tribu d'Éphraïm ou de Ruben. Mais toi, tu vas jeter ton dévolu sur... c'est qui encore? Le fils de Kish? Kish. Non. Son père s'appelait Kish. Kishiki. Oui. Donc, esprit de mépris, ça c'est dans l'entourage. Mais aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, nous allons voir comment cet esprit s'attaque aussi directement à ceux que Dieu a mis à part. Non seulement à ceux que Dieu a mis à part pour un service spécial, c'est-à-dire pour le service envers Dieu, ce qu'il a établi dans le sacerdoce, mais nous allons voir aussi comment il attaque le service même. Voyez-vous? Et il va pervertir le service de Dieu. Et le sacerdoce va devenir un moyen de pouvoir, par exemple, laisser son moi aller à toutes ses aises. Une opportunité de pouvoir, dominer les autres, etc. Ici, je ne m'attarderai pas davantage concernant le service et l'homme derrière le service, puisque j'en parlerai lorsqu'il sera question d'un autre danger, à savoir l'esprit de Gabata. Je donnerai simplement quelques informations, mais je reviendrai davantage au prochain séminaire, donc au début du mois d'avril. Alors, comment cet esprit s'attaque-t-il à ceux qui sont établis dans le sacerdoce? Comment cet esprit arrive-t-il à pervertir le service même que Dieu a établi pour être une bénédiction d'abord pour ceux qui sont dans le sacerdoce, mais aussi pour ceux qui en sont bénéficiaires, c'est-à-dire bénéficiaires du service? Et pour cela, bien, nous sommes dans l'Ancien Testament. Samuel, le prophète, comme nous l'avons vu hier avec Saül, il nous a laissé des écrits extraordinaires concernant cet esprit et sa manière de travailler. Nous sommes donc dans 1 Samuel chapitre 2. Alléluia, vous êtes avec moi? Je sais que quand il fait chaud, la chair se lâche un peu. N'est-ce pas? On a tendance à somnoler parce qu'on a tout le poids de la journée, et je comprends parfaitement. Je ne suis pas de ces pasteurs qui pensent que quand on est dans le Seigneur, on devient surnaturel. On a le même corps. Quand on est fatigué, on est. Et il est tout à fait normal que lorsqu'on a un séminaire en semaine, comme c'est le cas aujourd'hui, comme c'était le cas hier, il est tout à fait normal que les gens, quelque part, expriment l'état dans lequel ils se trouvent. Et surtout, je sais que beaucoup d'entre vous viennent tout droit du travail, oui ou non? Et quand on sait dans quelles conditions certains d'entre vous travaillent, avec des gens à peine recommandables, vous voyez? Quand vous venez ici, vous devez d'abord faire un grand effort, vous débarrasser de tout ce que vous avez entendu, oubliez un peu les attitudes qui ont été affichées vis-à-vis de vous pour vous concentrer, et ce n'est pas facile. Donc je le sais, mais c'est pourquoi de temps en temps vous pouvez bouger. Je n'interpréterai pas cela comme étant une agitation démoniaque. Parce que je vous l'ai dit, je comprendrai que là, c'est quelqu'un qui est en train de chasser la fatigue dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Oui, quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Quelquefois, on veut aller au-delà. C'est du suicide. C'est comme ça qu'on a des gens qui dépriment. Tout en étant dans le Seigneur, ils deviennent irascibles. Pour un rien, ils explosent. Et après, on accuse les démons. Non? Quelquefois, c'est un manque de sagesse. On veut être partout. On a terminé le séminaire à Labor. On apprend que l'ange Gabriel est apparu à Massina. Il organise encore un séminaire. Voilà, hop, Massina. Soyez sages. Nous sommes dans 1 Samuel, au chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 12. Jusqu'au verset 17, et puis verset 22 à 24. Verset 12. Les fils d'Élie, qui étaient donc à cette époque-là, souverains sacrificateurs. Voyez, c'est donc avant l'instauration de la monarchie. Voyez-vous, le sanctuaire de Dieu se trouvait à Silo. C'est un site qui se trouve en Israël, et c'est là qu'il y avait le temple de Dieu. Et à propos de ce temple, nous ne connaissons pas quelle était son architecture et le mobilier de du temple du Seigneur qui était à Silo. Mais toujours est-il que l'arche se trouvait à Silo, et c'est là aussi que se trouvait cet homme le souverain sacrificateur Élie. Alors, il avait des enfants, et il nous est dit, les fils d'Élie étaient des vauriens, étaient des hommes sans morale, et littéralement étaient les fils de... Ah! Nous allons voir maintenant comment Bélial se manifeste par rapport à ceux qui sont dans le sacerdoce. Ses fils étaient donc, les fils d'Élie étaient les fils de Bélial. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. J'aime beaucoup cette précision. Voyez-vous, ça va de soi. Hein? Donc nous comprenons maintenant comment ils étaient sous l'emprise de Bélial. Car on ne peut pas servir Bélial et en même temps prétendre connaître Dieu. L'un ne va pas sans... L'amour de l'un exclut la présence. Donc, c'est tout à fait logique que le prophète précise qu'il ne connaissait pas. Et pourtant, nous le retrouvons dans les sacerdoces. Certes, ils étaient fils d'Élie. Et par conséquent, de par la loi même de la sacrificature, ne pouvaient prétendre à cette charge de sacrificateur que ceux qui descendaient de la tribu de Lévi. Et par conséquent, ils étaient donc destinés au sacerdoce. Mais l'ennemi, lui, n'a que faire de tout ça. Il est quand même arrivé à frapper fort dans leur entourage, à les aveugler et à en faire des outils, mes amis, pour la destruction et la malédiction du peuple de Dieu. Donc, voici la manière d'agir, verset 13, de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. S'ils avaient été établis sacrificateurs, c'était d'abord pour Dieu et en faveur du peuple. Je vous ai déjà donné la différence. La différence entre le prophète et le sacrificateur. Le sacrificateur se tient devant Dieu en faveur des hommes ou du peuple. Et le prophète se tient devant le peuple en faveur... Il parle au nom de Dieu. Il parle parce qu'il a reçu une parole de la part du Seigneur. Donc, voilà comment ils agissaient vis-à-vis du peuple. Et on passe maintenant à l'énumération de la manière dont ces fils d'Élie, Ophni et Phinéas, agissaient à l'égard du peuple. La Bible nous dit, chaque fois qu'on offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur, oui, ils avaient des serviteurs. Eh bien, arrivé au moment où l'on faisait cuire la viande, une fourchette à trois dents à la main. Trois dents. C'est-à-dire pour prendre le maximum de ce qui appartient à Dieu. Vous voyez, j'aime beaucoup tous ces détails. Hein? Ils ont leur importance. Voyez-vous? Vous connaissez tous cet adage qui dit que le diable est dans le détail. Mais ici, nous dirions que la vérité, eh bien, se reflète dans la plupart des cas dans des petits détails comme ça. Voyez-vous? Donc, une fourchette à trois dents à la main. Et il piquait dans la cuve, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette ramenait, eh bien, le sacrificateur le prenait. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse qui revenait au Seigneur, c'est la partie qui devait être brûlée, vous voyez, et c'est seulement l'autre partie qui devait être donnée au sacrificateur. Non, même avant que la graisse soit brûlée, avant que la part du Seigneur ne lui soit donnée, et il prenait, même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne de la viande à rôtir pour le sacrificateur. Il n'acceptera pas de toi de la viande cuite, mais de la viande crue. Et si l'homme lui disait, mais on fera d'abord brûler la graisse, selon la loi de Dieu. Vous pourriez voir ça, tout ça dans le livre de Lévitique. On n'a pas le temps, je vous passe les détails. Hein. Eh bien, s'il disait, mais on fera d'abord brûler la graisse, tu prendras ensuite ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant. sinon je prends de force. Vous allez commencer à reconnaître un peu cette façon que certains de nos pasteurs font. Certains des hommes de Dieu font, se comportent dans l'église de Dieu. Le péché de ces jeunes gens, nous dit la parole, était très grand devant le Seigneur, car on traitait ou ils traitaient avec mépris l'offrande qui est faite à l'Éternel. Ça ne s'arrêtait pas là. Leur déchéance va aller plus loin. Leur folie sur l'influence de Bélial, eh bien, ne va pas s'arrêter là. Au verset 22 du même chapitre, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre, à l'entrée de la maison de Dieu. Quelle abomination! C'est à peine croyable. Mais oui, c'est un esprit subtil et malin. Lorsqu'il veut agir, il ne va pas attendre que tu sois devant une vitrine de prostituées. Là où même tu sers, c'est là qu'il va te servir. Il te la porte comme sur un plateau. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes fils, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous poussez le peuple du Seigneur à la transgression. Nous nous arrêtons là. Juste pour que nous puissions avoir une idée, une photographie concernant la manière d'agir de l'esprit de Bélial. Il y a là une entrée en matière de la part du prophète Samuel qui est très claire concernant, mes amis, les enfants, les sacrificateurs Ophni et Phinéas. Ils avaient été appelés au ministère, certes, de par leur appartenance à la tribu, à la descendance de Lévi. Dieu ne se repentant pas de ce don ni de son appel. Donc Dieu a respecté cela, et c'est comme ça que vous le retrouvez dans la sacrificature. Donc ils étaient censés être au service de Dieu et en faveur du peuple. Alléluia. Ils avaient reçu, mes amis, un sacerdoce, un service sacré, une occasion, mes amis, d'être une bénédiction pour le peuple devant Dieu et vice-versa, et d'être une bénédiction devant le peuple pour Dieu. Mais hélas, la Bible nous dit qu'ils étaient fils de Bélial, ils étaient sous l'influence de cet esprit, et cet esprit est arrivé à les amener à marcher, mes amis, en porte-à-faux avec la parole de Dieu, qui était très claire quant à la manière dont le sacerdoce devait être fait, assumé. La parole de Dieu est très claire quant à la manière dont le sacrificateur, qu'il soit souverain sacrificateur ou un simple sacrificateur, ils étaient, mes amis, soumis à des règles strictes. Ils devaient être des modèles pour le peuple de Dieu. Alléluia. Ils étaient ceux qui accueillaient le peuple quand le peuple venait pour un sacrifice parce que telle personne a péché, telle autre avait fait ceci. Et à la lumière de la parole de Dieu, ces personnes prenaient conscience de leur péché, de la nécessité de réparer, eh bien, la loi de Dieu qu'ils avaient enfreinte. Quand ils venaient, eh bien, ils les accueillaient. Mais malheureusement, ils laissaient leur volonté, qui était sous l'influence de Bélial, eh bien, agir et le mettre de manière inéluctable en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Regardons comment cet esprit s'est manifesté. Voyez-vous? Comment cet esprit, ou les œuvres de cet esprit, comment ces œuvres se sont-elles manifestées dans ce passage? C'est un passage qui ne demande pas d'avoir un cerveau à 3 étages pour comprendre ce dont il est question, oui ou non? C'est un passage très simple. On nous dit que c'était des fils de Bélial qui ne connaissaient pas Dieu et par conséquent s'est livré à toutes sortes d'abominations. Première leçon que nous pouvons tirer de cette expérience, c'est que Bélial arrive à séduire et à amener certaines personnes à vouloir servir Dieu simplement sur base d'une expérience religieuse, alors que Dieu est plus que la religion. Alléluia. Il y a beaucoup aujourd'hui qui se retrouvent dans le ministère parce qu'ils ont un oncle qui est évêque. Il y en a qui sont dans le ministère parce qu'ils ont été dans une institution de formation biblique ou théologique. Et avec leur diplôme en main, ils ont cru que les portes du service, les portes du sacerdoce, leur étaient grandement ouvertes. Je sais, mes amis, je ne suis pas naïf, vous ne l'êtes pas non plus. À l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup plus facile d'arriver quelque part et de dire « Dieu m'a appelé ». La plupart de nos églises aujourd'hui ont des moyens pour pouvoir prendre soin des pasteurs. Mais je vais vous dire une chose, il n'en était pas toujours ainsi. Voyez ? Il y a des gens qui ont été appelés, mais qui ont pris des risques de se lever et de servir le Seigneur sans avoir reçu quelque part une promesse d'un quelconque soutien financier. C'est parce qu'elle est là que je peux la citer. Avec son mari, ils sont venus. On les avait envoyés aussi à Brazzaville. Mais Dieu leur a dit non. Moi, je vous attends à Léopoldville. Brazzaville, Léopoldville. Ils sont venus. Mais ceux qui les avaient envoyés ont dit d'accord, si vous allez, nous faisons quoi? À vos risques et... Il fallait maintenant soit obéir au mouvement, à la structure établie par les hommes, qui est quand même, je ne suis pas contre toute forme de structure, hein, attention, hein, ou soit alors obéir à l'appel de Dieu. C'était un choix. Ils l'ont fait. Ils ont obéi. Mais quand ils ont décidé, il n'y avait personne pour les soutenir. Elles peuvent témoigner ou elles peuvent témoigner toutes les deux. Voyez. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller quelque part et dire, Dieu m'a appelé. Voyez. Et d'attendre en retour. Il dit, C'est quand? On sait, c'est vrai, Dieu appelle. Et Dieu aussi promet de prendre soin de ceux qu'il a appelés. Mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. C'est là que je vous dis que je ne suis pas naïf. Le ministère attire. Que ce soit les jeunes filles, que ce soit les jeunes gens, le ministère attire. Nous, quand on nous a appelés, je vous assure, il fallait réfléchir, pas une fois, pas deux fois. Hein? Moi, je continue à travailler parce que je voulais que même le ciel du ciel, Dieu m'envoie un ange. Je t'appelle. Ça n'a pas été facile. Vous voyez? On se battait, comment aller vivre? Je connais une sœur qui était ici avec nous il y a très longtemps, dont le fils avait été appelé. Et comment il avait réagi? Ça, je me souviendrai très bien. Elle a dit, mais il va vivre comment? Voilà la question que les parents de jeunes filles se posaient à l'époque, lorsque ils apprenaient que leur fille était désirée par un pasteur ou par quelqu'un qui aspirait à être... Mais aujourd'hui, le pasteur, pour aller voir sa fiancée, il s'amène en Prado. Il descend d'abord. On l'a dit, ah, bonjour papa. C'est seulement après, il broque avec sa clé de contact. Et quelquefois, ça fait un peu un bruit là. Ah, bonjour papa. Ah, bonjour papa. On l'a assis. Moi, on a fait la morale à ma femme. Hein. J'ai déjà dit ça. Oui, oui. Réfléchis. Comment un homme normal peut dire un jour, il va tout arrêter pour suivre Jésus? Mais vous allez vivre. Ah. Elle est là, elle peut témoigner. C'est peut-être la raison pour laquelle elle m'aime. C'est vice-versa. Vous voyez? Moi, j'en ai connu.
Il y en a les chaussures ici, comme des hors-bord, des pirogues. C'était pas facile. Avec le même pantalon, sans voiture, tu marches. À un moment, le pantalon s'use. Hein? Donc, tu commences à faire attention quand tu t'assieds chez des gens. Dès que tu t'assieds, quand tu te lèves là, est-ce que tu fais un peu ça? C'est la réalité. Oui ou non? C'est pourquoi ne regardez pas toujours au matériel, jeune gens, jeune fille. Si Dieu vous conduit, si Dieu permet qu'aujourd'hui ou demain vous passiez encore par ce chemin, par ce désert, c'est pour votre formation. Voyez, il y a des choses qu'on ne peut expérimenter que lorsqu'on est au désert. C'est pourquoi n'essayez pas de prendre des raccourcis. Ne sombrez pas dans la débrouillardise. Il n'y a pas d'article 15 spirituel. Il n'y en a pas. Il n'y a que des versets bibliques qui disent, qui mettent Dieu ou la fidélité de Dieu en exergue. Celui qui t'appelle ou qui vous appelle, c'est que vous avez besoin de vivre. C'est que vous avez besoin d'une maison. C'est que vous avez besoin d'une voiture. Mais ces choses sont secondaires. Apprenez d'abord à vivre par la foi. Regardez Israël. Israël a quitté l'Égypte. Israël était en route vers la terre promise. Pendant ce voyage, au cours de ses pérégrinations, Israël a vécu par la foi, parce que c'était dans le désert, ils allaient, ils ne pouvaient compter que sur Dieu. Ils ne pouvaient pas cultiver dans le désert, oui ou non? En plus, quand ils s'installaient quelque part, ce n'était pas pour y rester éternellement, c'était simplement pour se reposer, parce que Dieu avait fixé son cap, oui ou non? Mais tant qu'ils étaient au désert, eh bien, Dieu prenait soin, ils vivaient par la foi. Dieu envoyait l'écaille, n'est-ce pas? Et puis, il envoyait la manne. Ce n'est pas eux qui déterminaient quand est-ce que la manne devait tomber. Oui ou non? Ce n'est pas eux qui déterminaient le type d'oiseau en disant, oui, mais la caille, mais c'est mieux le pigeonneau. Voyez-vous? C'est mieux le des perdrix. Non. Dieu donne, oui ou non? On se contente. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il... Dans le désert, ils devaient apprendre à dépendre entièrement de lui. Mais quand ils sont arrivés dans la terre promise, la manne c'est, maintenant ils devaient cultiver et manger le produit de la terre. Alléluia! Maintenant ils pouvaient choisir en disant, tiens, moi je vais planter des oliviers, je vais planter des figuiers, moi je vais cultiver des tomates, des carottes, moi je vais faire l'élevage, etc. Vous voyez? Parce qu'ils sont... Donc il y a des temps. De moments où nous devons vivre par la foi. Mais il y a aussi des moments où nous arrivons, eh bien, ben, nous récoltons le fruit de ce que nous avons semé. Donc, Bélial, attaque fort ceux que Dieu a établis dans le sacerdoce. Et ces gens vont faire preuve d'un mépris. C'est un mot qui revient tout le temps avec cet esprit. Le mépris des choses de Dieu. Non seulement les mépris, lorsqu'ils frappent dans l'entourage de ceux que Dieu a appelés, pour les mépriser, mais aussi mépriser les choses que Dieu a établies, le service. Ici, nous voyons qu'il y a une inversion de priorité. Premièrement, ils se servent d'abord, avant même ceux, avant les coupables qui venaient, d'après la loi, le coupable offrait, il prenait une partie, et seulement le sacrificateur prenait, mais on brûlait la victime sur l'autel, la graisse était brûlée, c'est la partie qui revenait à Dieu, et selon le type d'offrande comme sanglante, et puis une partie revenait à celui, l'offrant, comme on appelle, l'offrant, celui qui venait offrir, Et puis enfin, l'autre partie revenait au sacrificateur. Parce que eux, de par leur mise à part, de par le fait qu'ils étaient donc destinés à être actifs dans la maison de Dieu, à travailler pour le peuple de Dieu et à travailler pour Dieu, de par cet appel et cette vocation, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient ni cultiver, ils ne pouvaient ni faire de l'élevage. Mais comme ils devaient vivre, eh bien, Dieu a prévu qu'ils se nourrissent de la viande de l'autel. Alléluia. Qu'ils se nourrissent du produit du peuple. Quand le peuple amenait leur dîme de produits agricoles ou autres, eh bien, là-dessus, ils prenaient ce qui leur revenait. Mais, sous l'influence, sous la manipulation de cet esprit de Bélial, eh bien, il y a une inversion de priorité. Ce n'est plus Dieu qui est prioritaire. Ce n'est plus le service en faveur du peuple. D'abord le peuple, et nous après, c'est tout le contre. Inversion. Non seulement, ils se servent, non seulement avant l'offrande, même avant le Seigneur, voyez-vous. Ensuite, la Bible nous dit, ils prennent plus que la part qui leur revient. La rapacité, la cupidité, la convoitise qui amène les gens à ne pas se contenter de ce qu'ils ont et à vouloir toujours aller au... Ces désirs incontrôlés qui amènent les gens, mes amis, même à se compromettre. Ils étaient tellement rapaces, ils voulaient absolument tout, qu'ils prenaient plus que ce que la loi avait exigé. En cela, ils péchaient contre le Seigneur. Ils détournent ce qui appartient au Seigneur. Voyez-vous? Et non seulement cela, mes amis, pire encore, la Bible nous dit, et c'est là que j'aimerais vous rappeler le message que le Seigneur a adressé à l'église de Smyrne, et de d'Éphèse et de Pergame. Vous vous rappelez hier, je vous ai dit un des problèmes qu'il y avait dans ces deux villes par rapport à l'église du Seigneur, c'est qu'à Éphèse, il y avait une secte d'origine obscure, une secte qui était plus tournée vers toutes sortes de spéculations dans l'enseignement philosophique, dans l'enseignement théologique, on perturbait les gens, etc., mais aussi versé dans le relâchement des mœurs, porté au relâchement des mœurs ou aux mœurs relâchées. C'est-à-dire des sectes qui favorisaient la fornication qui ne la condamnait pas. Et nous retrouvons, mes amis, ceci à l'époque de Samuel. Il nous est dit que ses enfants, Ophni et Phinéas, eh bien, couchaient, forniquaient avec les femmes qui venaient pour le service du Seigneur. Et où? Devant la porte de la maison de Dieu. Quelle débauche, mes amis. Quelle prostitution. Quelle luxure. En cela, eh bien, non seulement ils péchaient, eux, contre Dieu, mais en même temps, ils faisaient pécher le peuple du Seigneur. Mes amis, cet esprit, l'esprit de Bélial, eh bien, est là pour créer un climat de débauche. C'est un esprit qui est là, mes amis, pour répandre l'immoralité, pour amener les gens à sombrer dans la fornication, dans l'impudicité. Et ceci est quelque chose de terrible, mes amis. Et aujourd'hui encore, dans nos églises, quelles qu'elles soient, vous le savez mieux que moi, dans cette ville de Kinshasa, combien de pasteurs peuvent se tenir devant Dieu avec une conscience tranquille de ne s'être pas compromis? Combien ont tourné le dos à leurs épouses? Ils ont trouvé toutes sortes d'excuses. Oh, elles sont sorcières. Mais si l'épouse est sorcière, toi qui prétends être homme de Dieu, tu ne pourrais pas la délivrer? Tu pries pour les autres. Tu chasses les démons des corps des autres. Comment tu ne pourrais pas chasser le démon qui serait dans ton épouse. Et quand bien même elle aurait ce problème-là, ce n'est pas une raison suffisante pour pouvoir aller à l'encontre du mariage tel que le Seigneur l'a établi. Car celui qui a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a, si la femme souffre de démonologie ou de démonopathie, tout ce que vous voulez, eh bien, ce n'est pas une raison de dire, ah, c'est fini, je vais tourner vers l'autre. Ils le font parce que dans le cœur, il y a la convoitise. Alors, il faut trouver des excuses. Qui veut noyer son chien, l'accuse des rages. Vous le savez. Vous voyez? On trouve des excuses. Oh, ce n'est pas la femme du ministère. Quelle aberration! Quelle aberration! Dieu t'a appelé, tu étais avec elle. Et maintenant, Dieu changerait d'avis. Il t'appellerait avec elle. Et puis ensuite, il dit, non, laisse-la. Ce n'est pas la femme du ministère. Ça veut dire quoi? Et puis, où est-ce qu'il est écrit? Je suis peut-être trop biblique, mais où est-ce qu'il est écrit que lorsque Dieu appelle un homme au pastorat ou à être évangéliste, que forcément sa femme doit être évangéliste? Hein? Où? Il y a des femmes des pasteurs qui ne prêchent pas, mais qui ont été d'une grande utilité et qui sont d'une grande utilité pour leur mari. Alléluia! Gloire au Seigneur! Il n'est pas dit non plus que quand on est femme de pasteur, on doit absolument être la responsable des mamans. Maintenant, si la femme du pasteur a un ministère, c'est autre chose. Voyez-vous, ça c'est autre chose. Parce qu'on ne peut pas empêcher, parce qu'elle est la femme du pasteur, de ne pas exercer, pas du tout. Mais si elle n'a pas reçu quelque chose, mais elle a reçu ce don extraordinaire d'être, mes amis, le cou de son mari. Pourriez-vous vous imaginer la tête sans cou? Pourriez-vous vous imaginer cela? Pas du tout. Mais vous pensez que ça, ce n'est pas un apport assez suffisant? Il faut qu'elle sache absolument prêcher. Et c'est comme ça que vous trouvez certaines femmes qui trouvent l'occasion d'être aux côtés des femmes, de pasteurs, pour paraître imbues d'elles-mêmes. Quand elle est quelque part, personne ne peut plus bouger. Quand elle est quelque part, hé, maman bishop. Alors, il y a des pasteurs qui poussent leurs femmes à des responsabilités, mais vous les exposez. Si elles occupent la place pour laquelle elles n'ont pas été destinées, vous le mettez hors jeu. Et avec le temps, elles risquent d'être un frein pour votre ministère. C'est comme ça que les femmes, vous les femmes, des serviteurs de Dieu, nos femmes, vous êtes appelées à avoir un grand rôle auprès de nous. Si vous voyez qu'il y a une sorte de folie qui nous atteint, soyez les premières à nous le faire savoir. Oui. Faites-nous le savoir. Si la femme du pasteur ne le dit pas, qui d'autre le lui dirait? C'est vrai, comme nous le verrons avec l'esprit des Gabata, certains hommes de Dieu, encore, il faut que elles donnent l'ouverture à leur femme pour leur parler. Il y a des pasteurs qui parlent à leur femme comme ils parleraient aux membres de l'église. Je vais vivre, très bien. Donc, faites ça, ok. Mais c'est à moitié. Voilà pourquoi tu es malheureux. Tu dois l'aimer. Et c'est comme ça que certains essayent de combler ce vide-là par des jeûnes, de longs jeûnes tout le temps. Mais écoute, Dieu t'a donné une femme pour l'aimer. Le jeûne a sa place. Mais le jeûne ne prendra jamais la place du dialogue. Voyez? La méditation a sa place, mais la méditation ne prendra jamais la place de la communication. Dès que vous sentez qu'elle arrive là, la Bible. Ah, gloire au Seigneur, alléluia. Tout ça pour l'éviter. Mais Dieu te voit. Tu es un petit rusé à tes yeux. Mais à ses yeux, tu n'es qu'un petit taliban aveuglé. Tu as besoin que Dieu ôte ce voile-là. Parce qu'en la rendant malheureuse, tu te rends toi-même malheureux. C'est ça. Maintenant, ceci est valable aussi, non seulement pour les couples pastoraux, attention, mais aussi pour tous les couples dans le Seigneur. Vous considérez votre femme comme un objet. Vous l'avez pratiquement chosifiée. Vous voyez, c'est un objet. Quand on a besoin d'elle, alors on fait des yeux doux. Chérie, hein? C'est qu'il y a un intérêt. Le reste de temps, monsieur est tout le temps parti. Ah oui, j'étais en visite quelque part. Ah, on avait réunion entre les prières, vous savez, nous les hommes de Dieu. Voilà, non, non, on avait une convention. Vous savez, il y a un Italien qui est arrivé, beaucoup d'onction, tout ça. Oui. Qui te demande que tu ailles à toutes ces rencontres au péril de ta propre vie conjugale? Et après, lorsque le mariage tourne au vinaigre, hein? À ce moment-là, on commence à vouloir agiter le ciel et la terre, ou à essayer de trouver quel est ce démon, quelle est la sorcière de la famille. Voyez-vous? Non! Bélial suscite un esprit de débauche. C'est un esprit que nous devons combattre absolument. J'entends de choses abominables, mes amis, de la part de cet esprit-là. Des gens qui reçoivent des fausses prophéties, qui les poussent à tromper leur partenaire. Vous croyez en ça? Et pourtant, ça s'est fait dans notre ville de Kinshasa. Une prophétesse qui fait croire, ou un prophète, qui fait croire à quelqu'un qui est déjà marié, que la femme qu'il a, ou l'homme qu'il a, ce n'est pas l'homme selon Dieu. Eh bien, si cette femme-là vous dit une chose pareille, regardez-les en face. Vous lui dites, c'est la dernière fois, l'unique fois, que tu dises une abomination de ce genre. Et je demande à ce que Dieu te fasse grâce, car ce que tu dis est terrible. Ouais. Et tu prends ton sac à main, tu pars. Hein? Les hommes, c'est pareil. On vous manipule facilement. Oui, mais dans la plupart des cas, c'est parce qu'il y a une attente dans le cœur. Lorsque quelqu'un veut faire quelque chose, c'est comme par exemple des conseils, surtout lorsqu'il s'agit de mariage, je le sais, puisqu'on a, avec notre âge, on a aidé beaucoup de couples, on a parlé avec beaucoup de jeunes. Et quand quelqu'un vient te voir, bon pasteur, etc., moi, mon cœur brûle, mon cœur s'enflamme. C'est vraiment une éruption volcanique. Vis-à-vis de tel frère. Si vous essayez de lui donner des conseils qui vont dans le sens de son aspiration, la personne ne reviendra plus. Elle peut faire le tour des conseillers de l'église, le tour des pasteurs, des diacres, des anciens, entendre le même conseil, lui disant non, fais attention, etc., et partir aller ailleurs. Et ailleurs, eh bien, il y a toujours un prophète. C'est terrible, hein? Comme le diable agit. Il y a toujours une prophète à votre disposition. Dès que vous en avez besoin, il vous en trouve. Il n'y a pas de bottin téléphonique, mais je me demande comment les gens arrivent. Est-ce que ça débouche à oreille ou comment? Il y a des gens qui connaissent les adresses de tous les prophètes. Dans tout leur GSM. Oui. Donc, des manipulations. Non, ce n'est pas la femme. Oui, tu l'as eu quand? Vous étiez à l'université, oh là 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 là, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais qu'est-ce qui te prouve qu'une rencontre à l'université ne pourrait pas venir de Dieu? Mes amis, débarrassons-nous des clichés. Débarrassons-nous de tous ces clichés-là. On dit Dieu, c'est toujours là. Bam! Comme ça. On l'enferme dans une manière de penser. Non, Dieu ne peut pas être enfermé dans un système intellectuel, dans un système philosophique, dans un trou psychologique, dans tout ce que vous voulez. Il est dans le temps, il est hors du temps, il transcende le temps, il est en nous, parce que nous sommes devenus son temple, en même temps, il est partout. Alléluia. Il remplit pleinement les cieux des cieux. Il remplit tout l'univers visible avec ses milliards de galaxies. Comment voulez-vous contenir Dieu dans un sac en disant, voilà, il agit toujours de cette manière. Nous devons faire très attention. Bref, l'esprit, pour terminer, nous avons là la deuxième manifestation de l'esprit de Bélial, qui se manifeste cette fois-ci en attaquant directement, pas seulement en agissant dans l'entourage, comme avec Saül, hein? Mais cette fois-ci, il attaque directement et il amène les gens à mener une vie de débauche. Et c'est comme ça que mes amis, dans certaines églises, eh bien, une église a bien commencé, et puis avec le temps, on ne sent plus rien, etc. Dieu seul sait. Cet esprit est en train de frapper partout. Vous voyez? Donc nous devons veiller. Alléluia. Nous devons faire attention. C'est un esprit de débauche. C'est un esprit, mes amis, qui lorsqu'il veut frapper, il n'a pas besoin d'aller chercher toutes ces filles qui racolent les hommes sur le boulevard ou ailleurs. Il n'a pas besoin d'aller chercher les prostituées un peu partout. Il peut frapper là où même Dieu t'a donné le travail. Il peut frapper là où Dieu t'a amené pour le servir. Il peut frapper là où Dieu t'a donné du travail. Alors ne dis pas un jour, oh là là, je ne pense pas que ce travail est venu de Dieu. Seigneur, tu savais que cette secrétaire est une dévoreuse d'hommes. Seigneur, toi qui connais tout, ah là là là, ah oui, mais il connaît tout. Mais le fait que Dieu connaisse tout ne fait pas qu'il en devienne la cause de tout. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Eh oui, le fait que Dieu sache que quelqu'un va mourir renversé quelque part sur le boulevard à Kinshasa tel jour à telle heure, ne fait pas de Dieu la cause. Il connaît, hein? Comme on dit, voyez-vous, la préconnaissance de Dieu. Le fait que Dieu connaisse les choses à l'avance n'est pas causative. Ne veut pas dire que celui qui va provoquer l'accident, parce qu'il a dit non. Non. Voyez, mes amis, c'est un esprit qui peut frapper, d'une manière ou d'une autre. Un esprit de débauche, comme avec le fils d'Élie, qui était dans le sacerdoce, qui était sacrificateur, qui avait reçu l'onction pour servir Dieu. Et cet esprit est arrivé à les déstabiliser. Mes amis, peut-être à leur faire oublier Dieu, puisque Samuel affirme qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Il n'avait aucune expérience. Et par conséquent, il se comportait comme des hommes religieux. Mes amis, l'esprit de Bélial non seulement travaille dans l'entourage de ceux sur qui Dieu pose sa main pour telle ou telle autre vocation, peu importe sa nature, mais cet esprit attaque aussi ceux que Dieu a établis dans le ministère. Car il sait mieux que quiconque que s'il frappe la tête, alors les brebis sont... Voilà. Quand il frappe dans les hautes sphères, alors là, l'Église est affaiblie. Voyez-vous, c'est là que vous avez le devoir, comme je l'ai dit, je l'ai souligné à plus d'une fois, vous avez le devoir de parler plus de nous devant Dieu qu'entre vous. Parlez de nous devant Dieu, quand je dis nous, tous les serviteurs, c'est-à-dire intercédez pour nous, priez pour nous, car dans la plupart des cas, l'Église ne fait pas suffisamment, n'assume pas suffisamment cette vocation. Ça se comprend. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas enseigné à l'Église que c'est dans sa responsabilité de se tenir régulièrement devant Dieu en faveur de ce que Dieu a établi comme ministre dans l'Église. Paul, le champion de la foi, un des grands apôtres, jamais homme n'a sollicité la prière des Églises comme Paul. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui aurait pu s'en passer, c'était lui, hein? Il a vu Jésus, oui ou non, dans une conversion surnaturelle. En plus, à plus d'une fois, le Seigneur lui a parlé. Il a reçu des visions, lui-même le dit. Il a fait des expériences extraordinaires, qu'il donne avec moult détails. Voyez-vous? Il a fait des choses grandioses. C'était un homme qui gênait, comme lui-même le dit, hein? Il gênait régulièrement. Il savait comment servir Dieu, il le connaissait. Mais, nonobstant toute cette connaissance-là, toutes ces expériences-là, Paul savait qu'il était un homme comme tous les autres hommes. Et par conséquent, il était vulnérable. Voyez-vous? Et par conséquent, il avait besoin que l'Église le porte souvent dans la prière. Et regardez, pratiquement dans toutes ses épîtres, il sollicite la prière des Églises. Il sollicite la prière des communautés. Oui, c'est votre devoir, c'est notre devoir de prier pour ceux que Dieu a établis au milieu de nous, qu'ils soient diacres, diaconesses, anciens, qu'ils soient pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, et que sais-je. Eh bien, ce sont des ministères que Dieu a fait lever au milieu de nous, et nous, nous devons de parler plus de ces gens-là devant le Seigneur que de parler souvent d'eux entre nous. Car dans la plupart des cas, quand on veut parler d'eux, c'est toujours en des termes négatifs, et c'est là que l'esprit Bélial s'introduit. Il a dit, oui, mais vous avez raison. Non, oh, oui, mais lui, tu crois qu'il a été appelé? Tu crois que... Non. Voyez? Donc, bref, pour terminer, deuxième manifestation de Bélial, il vise directement ceux qui sont dans le sacerdoce. Il a attaqué les fils d'Élie, il en a fait des débauchés, des gens impudiques, immoraux, voyez, des gens vivant dans la luxure, des gens versés dans la fornication, alors que la Bible interdit formellement, voyez, alors que la Bible interdit tout commerce dans ce domaine-là, il nous demande de nous garder purs, voyez, Bélial, déjà à l'époque d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, de l'église de Pergame, a frappé au travers de cette secte de Nicolaïtes. Et aujourd'hui, à travers toutes sortes d'enseignements, j'ai même entendu un pasteur qui défendait la polygamie ici à Kinshasa. Parce que lui-même a toute une cour, hein, tout un harem. C'est pas toute une collection. Je ne sais pas s'il est choisi en fonction de leur appartenance ethnique, ou en fonction de la taille, je ne sais quoi. Mais oui, il défend. Oui, Abraham a eu ceci. Oui, Salomon a eu autant. Oui. Oui, mais Salomon n'est pas notre modèle. C'est ce que Jésus a dit. La Bible rapporte simplement que et Abraham et les autres étaient des hommes comme vous et ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Mais sur le plan moral, la Bible ne nous demande pas de nous inspirer d'Abraham. Hein? Ou vice-versa. Donc voyez-vous, mes amis, Bélial est toujours à l'œuvre au travers de la débauche. C'est ainsi que c'est un des problèmes que nous rencontrons dans nos milieux. La légèreté, voyez, dans des départements, des gens qui sont légers, ça commence par des petits attouchements, des gens qui sont légers dans leurs paroles, dans leurs propos, toujours des propos un peu à double sens. Voyez, il y a des gens qui excellent dans cet art-là. Voyez, c'est des vrais funambules, hein. Ils sont sur le... C'est comme sur... comment? Sur un... Sur, je sais pas, un fil. Vous connaissez le funambulisme? Ce genre qui marche sur un fil suspendu entre deux. Il y a des gens comme ça. C'est des vrais raies, des vrais silures ou des anguilles. Donc nous devons faire attention que le Seigneur nous aide. Alors je voudrais demander à chacun de vous d'incliner la tête. Je voudrais que nous puissions en cet instant porter notre Église, mais porter également les autres églises. Je sais qu'il y a des gens qui sont ici, qui appartiennent à d'autres églises. Priez pour que Dieu touche ces églises. Alléluia. Priez pour que le Seigneur, eh bien, brise cette influence immorale. Que Bélial ne se manifeste pas. Pour gloire au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta parole. Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, pour la présence de ton Saint-Esprit parmi nous. Car grâce à cette présence, nous pouvons marcher sur l'influence de Bélial. Nous pouvons détruire ses œuvres dans le nom de Jésus. Nous pouvons, Seigneur, sanctifier le climat, l'atmosphère au milieu de nous. Car tu as versé ton sang, et ton sang détruit tout. Ton sang rend pur, ton sang sanctifie. Et nous implorons ta grâce. Ô Dieu, déverse ta grâce sur chacun de nous et garde ton Église, celle de la Borne et toute autre Église dans notre ville de Kinshasa, dans notre République, à travers le monde. Garde ton Église contre cet esprit d'impudicité, cet esprit de débauche, cet esprit de fornication, cet esprit de légèreté morale, de relâchement des mœurs. S'il te plaît, fais-le, ô Dieu. Garde-nous. Donne-nous d'être responsables vis-à-vis de nos corps. Donne-nous de les posséder dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci aussi Seigneur de poser ta main en cet instant et de bénir le service des offrandes. Merci pour tous ces cœurs qui te manifestent sa générosité afin d'essayer de soutenir l'effort consenti pour organiser ce séminaire. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.